Philippe, métaphysique à Fribourg, le 17 mai 83, deuxième cours.
Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je continuerai cette question, et puis après on verra ce que nous allons faire. Je vous disais tout à l'heure, il faut se poser cette question, il faut se la poser loyalement, et c'est pas commode. Pouvons-nous commencer une philosophie réaliste par le point de vue de l'expérience, non pas l'expérience mystique, mais l'expérience de l'adoration? Je suis parti de là. En premier lieu, il est naturel à l'homme d'adorer. C'est ce qu'il y a même de plus fondamental, son sens religieux. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que voir que les psychologues commencent, ceux qui vont un peu plus loin. Les Américains, les Autrichiens, pas les Français encore, mais les Américains, les Autrichiens, qui vont un peu loin, qui sont plus libres, n'hésitent pas de dire que le refoulement le plus profond, c'est le refoulement religieux. Autrement dit, les idéologies athées sont en train de préparer une humanité qui sera complètement déséquilibrée. C'est leur conclusion. Le refoulement du sentiment religieux, de ce que représente l'appétit vers l'attitude d'adoration, l'affectivité la plus profonde qui est en nous, qui est le point de vue de l'adoration, refouler ça dès le point de genèse, dès la toute petitesse de l'enfant, c'est-à-dire ne pas éduquer un appétit naturel et le refouler, c'est normalement le refoulement le plus profond. C'est intéressant de voir ça. Je voyais encore hier un psychanalyste qui est en France, un psychiatre qui est en France, et qui me faisait allusion à cela. Donc ça commence à pénétrer un peu partout maintenant, en me disant il y a là quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle me disait, qu'est-ce que vous en pensez? Elle me dit, moi philosophiquement, je suis tout à fait d'accord. Parce que si vraiment l'homme est naturellement religieux, l'appétit vers Dieu, vous voyez, cette argumentation que donne saint Thomas, très simple, en disant la partie aime plus le tout qu'elle-même. Et en tant que créature, on est une partie. Non pas Dieu qui est un tout, ce serait une espèce de vision panthéistique, mais il y a quelque chose de juste, c'est qu'il y a en nous un appétit naturel, religieux, qui est plus fondamental que tout. Quelque chose de très radical. Cet appétit religieux, si on le met dans un état de refoulement, c'est-à-dire on l'empêche de s'épanouir, on vous donne qu'une psychologie laïque, on vous donne qu'une éducation laïque. On reste uniquement au niveau de l'homme et on veut absolument plus parler d'autre chose. Et on fait comme Auguste Comte, parce que ça c'est vieux, en disant le sentiment religieux, c'est tout simplement un sentiment de générosité de l'homme qui veut être au service de l'homme. C'est comme ça que Auguste Comte définit l'attitude religieuse. C'est se mettre au service de l'homme. Et être au service de l'homme, c'est ce qu'il y a de plus noble et de plus grand. Là, vous voyez, le sentiment religieux est traduit par un service de l'homme. On ne regarde que l'homme. Alors à ce moment-là, il y a un refoulement terrible du sentiment religieux qui existe chez le tout petit enfant, parce que c'est naturel à l'homme, qui demande d'être développé et qui demande de pouvoir se développer. L'enfant est naturellement religieux, c'est ça, c'est sûr. Il a un sens bien plus profond. La preuve, c'est que quand il est devant la mort et qu'on lui explique un tout petit peu, ça ne l'effraie pas du tout. C'est les grandes personnes qui sont effrayées devant la mort. Vous voyez, c'est les grandes personnes, c'est évident. L'enfant n'est pas effrayé, mon amour. Parce qu'il a un sentiment religieux beaucoup plus profond. C'est très curieux de voir ça, et c'est intéressant du reste, parce qu'alors, on voit très bien que, vous voyez, quand on dit que c'est la mort qui est source de toutes les angoisses, c'est peut-être parce qu'on a fait le refoulement du sentiment religieux, et que la mort alors devient la chose la plus terrible. Ça devient le trou noir. Parce qu'on a refoulé le sentiment religieux. Parce qu'on a supprimé ce sentiment religieux. S'il y a le sentiment religieux, la mort est portée par quelque chose de plus fondamental. Et alors la mort à ce moment-là ne vient plus source d'angoisse. Ça vient tout simplement une orientation vers quelque chose qui nous dépasse, que nous ne croyons pas, un retour vers. Le retour vers ses pères n'a jamais été source d'angoisse. Dans toutes les religions, le retour vers ses pères n'a jamais été source d'angoisse. Mais évidemment, si on supprime le sentiment religieux, la mort devient comme une expérience visible, sensible, d'absolu. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on reprend ces choses-là aujourd'hui, n'est-ce pas, au point de vue psychologique. Ceux qui sont encore à Freud sont en retard. Il faut tout simplement dire ça. Ça continuera, c'est bien évident, parce que les erreurs continuent longtemps après. Et alors on continuera d'enseigner cela en disant, mais c'est bien évident. Non, non. Et c'est intéressant de voir qu'au point de vue philosophique, de fait, si on essaie de comprendre profondément comment l'homme est capable de découvrir l'existence de Dieu, qu'on va redécouvrir la nécessité absolue au point de vue philosophique de regarder le point de vue religieux. Mais évidemment, ça mettra un point d'interrogation par rapport à pas mal de philosophies d'aujourd'hui, qui sont des philosophies limitées à l'homme, et des philosophies qui ne regardent pas le dépassement de l'homme vers quelque chose qui est un absolu. Donc, il faut saisir ce point de vue-là. Alors, cette expérience religieuse, qui est une expérience interne, qu'il faut reconnaître. Il y a une expérience interne religieuse. Cette expérience religieuse interne, est-ce qu'elle nous permet d'être un point de départ de la philosophie ? Alors, je partais de ce petit critère, qui pour moi est un critère, au point de vue philosophie réaliste. Est-ce que cette expérience interne implique-t-elle immédiatement un jugement d'existence ? Je crois que c'est de cette manière qu'on doit poser le problème. Si on a compris, je dis bien, si on a compris que le jugement d'existence impliqué dans nos diverses expériences est bien le point de départ de la philosophie. Ceci est présupposé connu. N'est-ce pas ? On a déjà fait ensemble, il faut tout le temps revenir là-dessus. Quel est le véritable point de départ de la philosophie ? Posez-vous tout le temps la question. Vous ne perdez jamais de temps là-dessus. Quel est le véritable point de départ de la philosophie ? Lisez les livres du père Maréchal sur le point de départ de la métaphysique. Moi, je dis quel est le vrai point de départ de la philosophie, puis le vrai point de départ de la métaphysique. Le vrai point de départ de la philosophie, c'est l'expérience. Aristote l'a dit. C'est pas parce qu'Aristote l'a dit, je le répète, mais c'est parce que je vois que si la philosophie doit être une connaissance exhaustive, je crois que c'est cela qui est présent dans toute philosophie. Une philosophie qui se dit une spécialité n'est plus une philosophie. Une philosophie doit se dire nécessairement quelque chose de radical qui doit regarder le plus loin possible dans l'ordre de nos connaissances. Et donc la philosophie, c'est une connaissance exhaustive. Si c'est une connaissance exhaustive, il faut que le point de départ de la philosophie soit le plus radical possible. Alors, quel est le point de départ le plus radical possible ? C'est l'expérience. Parce que je ne peux pas dire que l'expérience est un a priori. Ou bien alors, vous avez une définition d'un a priori qui est tout à fait particulière. Hein ? L'expérience n'est pas un a priori. L'expérience est un point de départ. C'est un éveil. C'est vrai, je m'éveille dès que j'ai une nouvelle expérience. Je m'éveille, je pose une nouvelle interrogation, et ainsi de suite. Il y a un nouveau petit sentier qui est indiqué. Donc ce n'est pas un a priori. Tandis que si je commence ma philosophie par l'expérience interne n'est jamais première. Elle est toujours seconde. Elle est peut-être plus profonde. Ah oui, ça je veux bien. Elle est peut-être plus profonde, mais elle n'est pas première. Si je commence par la conscience, ce n'est pas premier. Donc vous voyez, l'interrogation critique consiste à essayer de voir où se trouve le point de départ le plus exhaustif, le plus fondamental de ma philosophie. Il faut être loyal là-dessus. Alors, si je suis loyal, que je fais cette enquête loyalement, si je regarde tous les philosophes qui ont parlé d'un point de départ de la philosophie, il faut le faire dans la mesure du possible. vous dit, le père maréchal a fait le travail pour vous. Donc ça va. Alors il suffit tout simplement de regarder ça. Eh bien, si j'essaie de compléter, parce que le père maréchal, depuis, il y a encore d'autres points de départ de la philosophie. Mais pratiquement, ça se répète tout le temps, vous savez. Il n'y a pas beaucoup d'originalité en philosophie. Il y a quelques grandes originalités. C'est normal, c'est normal. Chaque philosophe veut cacher ce qu'il copie par une originalité extérieure, hein, un langage nouveau. Mais ça a déjà été dit. Ça a déjà été dit, tout ça. Mais, oui, c'est intéressant de voir ça, parce qu'il ne faut pas tomber dans le panneau, voyez, de l'originalité. L'originalité, quand elle est authentique, comme dans l'art, c'est merveilleux. L'artiste a le droit d'être original. Le philosophe, il recherche la vérité. C'est pas original. Mais il cherchera son originalité dans la mesure où il creusera plus profondément qu'un autre. Alors, très très bien. Dans la mesure où il atteindra plus profondément la vérité qu'un autre, il a le droit d'être original. En disant, ça on ne l'a pas encore dit. Mais c'est en creusant vers la vérité. Un artiste, il réalise quelque chose qui nécessairement, si c'est son œuvre d'art, n'a pas encore été dit. Mais il ne cherche pas ça. Il cherche à dire ce qu'il porte en lui. Ce qu'il porte en lui dans son inspiration, ce qu'il porte en lui dans au plus intime de lui-même. C'est ça qu'il cherche à dire comme artiste. Puis les autres diront, ah c'est original. Très bien. Les autres diront, ah vous copiez Chagall. Ah non, je ne copie pas du tout, je n'ai pas du tout envie de copier, je ne l'ai jamais vu. Ah mais ça ne veut rien, vous copiez Chagall. Il peut y avoir des parentés comme ça. C'est évident, parce que Chagall est original à sa manière. Et tous ceux qui sont vraiment des artistes, qui expriment quelque chose qu'ils portent, en eux, touchent quelque chose d'original. C'est normal, ça, parce qu'ils touchent une œuvre qui a quelque chose d'inédit. Tandis que le philosophe, quand il essaie de chercher quelque chose d'original, par définition, il dira rien d'original. Parce qu'il y a eu des originaux avant lui. Alors, il est sûr, il n'est pas le premier dans cet ordre-là. Tandis que s'il cherche la vérité et qu'il creuse indéfiniment la fidélité à la vérité, nécessairement, il dira quelque chose qu'on n'a pas encore dit. La vérité, c'est inépuisable. C'est inépuisable. Donc, si on cherche à dire la vérité, on la dira chacun à sa manière. Mais c'est la vérité qu'on cherche. Et c'est ça qu'on cherche indéfiniment. Et on essaie de s'approcher, de creuser toujours plus loin, pour essayer de mieux comprendre. Bon, si on cherche loyalement quel est le point de départ de la philosophie dans ce qu'il a de fondamental, indépendamment de tout a priori, le philosophe n'a pas le droit d'avoir des a priori, ni politiques, ni psychologiques, ni philosophiques, et ensuite, aucun a priori. Il doit chercher loyalement quel est le point de départ. Il verra que le point de départ le plus fondamental, c'est l'expérience. Il verra que l'expérience implique le jugement d'existence. Et donc, il peut dire qu'un véritable point de départ philosophique implique le jugement d'existence. On va très loin, ça, comme vision de la chose. Et c'est intéressant de saisir ça. C'est intéressant de saisir qu'en effet, c'est le jugement d'existence qui est là, à la racine. Bon, je me pose la question, est-ce que l'expérience que j'ai au point de vue religieux, dans l'adoration, ou dans le tremendo, l'expérience de quelque chose de sacré, quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui me terrifie, quelque chose. Est-ce que cette expérience implique un jugement d'existence nouveau? Je dis non. Et donc, ça ne peut pas être un point de départ philosophique. Si vous n'êtes pas d'accord, vous arriverez à répondre à cette question. Ça m'intéresserait beaucoup. Ça m'intéresserait beaucoup. Parce que c'est toujours intéressant. Il faut se poser. Je me pose régulièrement la question. Parce que régulièrement, on voit quelqu'un qui dit « Mais ce serait si bien !» Je suis tout à fait d'accord, ce serait si bien. Ce serait merveilleux de pouvoir partir de l'expérience religieuse. Je suis tout à fait d'accord, ce serait merveilleux. Je ne peux pas. Et dans un monde comme le nôtre, vous voyez, qui est un monde matérialiste où l'expérience religieuse n'est plus tellement présente, l'expérience religieuse, évidemment, n'est pas reçue par tout le monde. C'est pour ça que j'aime mieux commencer par l'expérience du travail. Parce que c'est reçu par tout le monde. Même un athée reconnaît l'expérience du travail. Alors, à ce point de vue-là, c'est plus important de commencer par une expérience qui est plus commune, et puis qui, je crois, est la plus fondamentale au point de vue conscience. Mais travail, expérience religieuse, c'est curieux, parce qu'on retrouve Hésiode, vous voyez. Hésiode, c'est expérience religieuse, travail. Puisque c'est la théogonie, et puis les jours et les travaux. C'est intéressant qu'on retrouve quelque chose de tout à fait fondamental dans notre monde d'aujourd'hui. C'est ou l'expérience religieuse, ou le travail. Et c'est vrai, ça, c'est très vrai que je crois qu'on est en face des deux. Et ce sont un peu, vous voyez, dans notre expérience, les deux extrêmes. Hein, un peu les deux extrêmes. L'homme travailleur en nous, c'est ce qu'il y a de plus commun. C'est vrai. Et l'homme religieux en nous, c'est ce qu'il y a de plus profond. C'est ce qu'il y a de plus... le plus vulnérable. C'est ce qu'il y a de plus profond. Mais je ne peux pas partir de l'homme religieux parce que cette expérience est une expérience interne qui n'implique pas une nouvelle expérience. Alors je me pose maintenant une nouvelle question à la suite de Bergson, du reste. Bergson ouvre la porte à ça. Et il n'y a pas que Bergson, il y a Plotin. Je sais que Bergson et Plotin se tiennent très fort, vous savez bien. L'auteur préféré de Bergson, c'était Plotin. Et donc, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que l'expérience mystique peut-elle un point de départ de la philosophie? Alors évidemment, là, c'est très aristocratique, hein, comme point de départ. Parce qu'il y a très peu d'expériences mystiques, naturelles, comme point de départ philosophique. Mais ça, ça n'a pas d'importance. Hein. Si c'est authentique, si c'est vrai, même si un seul homme l'a eu, et que je l'ai, évidemment, parce que je ne peux pas baser mon expérience, je ne peux pas baser ma philosophie sur l'expérience d'un autre. Vous voyez, baser une nouvelle philosophie sur le cosmonaute qui était dans la Lune, et qui me dit que dans la Lune, il a vu l'être à l'envers, parce qu'elle était dans un éclairage lunaire. Alors évidemment, à ce moment-là, je peux me dire, je faudrait reposer une nouvelle philosophie à partir de l'expérience du cosmonaute. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas baser ma philosophie sur l'expérience d'un autre. Je pourrais le dire, décrire l'expérience d'un autre. Mais l'expérience d'un autre, pour moi, c'est une opinion, pas plus. Je n'ai pas été dans la Lune. Évidemment, peut-être que ce serait la nouvelle expérience pour tous les professeurs de philosophie de Fribourg. Ont-ils été dans la Lune? Alors, à partir de là, ils peuvent donner une nouvelle philosophie, qui est l'expérience lunaire, la philosophie de la Lune. Ce n'est pas encore dans les règlements. Mais peut-être que demain sera dans les règlements, n'est-ce pas ? Parce que c'est une expérience nouvelle. Est-ce que cette expérience change quelque chose au point de vue métaphysique ? Je ne crois pas. Est-ce que cette expérience change quelque chose au point de vue philosophique ? Je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que c'est avec les mêmes yeux, avec les mêmes mains, qu'ils ont été là-bas. Et que la seule différence, c'est que c'était garanti. Il y avait un petit intermédiaire, hein, et qu'ils ne pouvaient pas sortir de leur coquille. C'est les embryons de notre univers qui se promènent dans la Lune. Hein. Et c'est vrai, ils sont embryons de notre univers pour se promener dans la Lune. Et pour aller toucher la Lune, des choses comme ça. Hein. Mais c'est très curieux, l'expérience des cosmonautes, à ce point de vue-là. Hein. Mais c'est un prolongement, il n'y a rien de plus, c'est rien de nouveau. L'expérience mystique, telle que la décrit Bergson, telle que la décrit Plotin, l'expérience mystique apporte-t-elle quelque chose de nouveau? Ça, c'est une très grave question, une question très importante. Elle vaut la peine d'être posée. Parce que si on aime Plotin, on se la pose fatalement. Quelqu'un comme Olivier Lacombe, qui aime beaucoup l'Inde, a fait des parallélismes entre l'Inde et puis l'expérience de Plotin. Il a écrit des articles intéressants. On peut être d'accord ou pas être d'accord, mais c'est des articles intéressants où il se pose la question, y a-t-il une expérience mystique ? Alors, je me pose la question, y a-t-il une expérience mystique ? Celle de Plotin, celle de l'Inde. Comprenons bien ici, vous voyez, Bergson, lui, il a pris les mystiques chrétiens. Donc, ce qu'il a dit est d'ordre de l'opinion, puisqu'il n'était pas chrétien quand il l'a dit. C'était comme le cosmonaute de la très sainte Trinité qu'il suivait en disant, moi je ne l'ai pas encore vu, mais ils disent qu'ils l'ont été, je n'ai pas de raison de dire que ce n'est pas vrai, puisqu'ils ont fait cette expédition particulière, la montée du Carmel, hein. Ils ont fait une montée extraordinaire, et puis là ils ont été devant des choses extraordinaires, ils décrivent des paysages que je n'ai pas vus, mais après tout, je n'ai pas de raison de ne pas le supprimer. Bergson était loyal, hein. Et puis il décrivait ça. Mais vous voyez, pour Bergson, c'était l'expérience d'un autre respectable. Donc à partir de là, il ne pouvait pas donner une nouvelle philosophie. Plotin, lui, décrit comme une expérience propre. L'Inde décrit comme une expérience propre et religieuse. Pas de foi. Plotin n'a jamais parlé de foi. Tandis que l'expérience du silence profond quand on entre dans le temple intérieur. Il décrit ça à travers toute une liturgie extraordinaire. C'est beau, tu vois, c'est très très beau. Ce silence si gai. Au-delà de la contemplation, il y a l'union. Au-delà de la contemplation, il y a l'union. Il y a une union avec Dieu. Une union avec l'un. Parce que c'est l'un. Une union mystique. Silencieuse. Absolument silencieuse. C'est intéressant de voir que c'est dit sans aucun contenu intellectuel. Donc, une présence. Je crois que toute expérience mystique se dit sans aucun contenu intellectuel. Comme un silence et comme une présence immense. On est pris, saisi, on est attiré, mais sans aucun contenu intellectuel. Alors ça, c'est très intéressant de voir ça. Vous voyez, tandis que le mystique chrétien dira qu'il y a un contenu intellectuel. Il décrira le mystère de la très sainte Trinité. Il dira quels sont les attributs de Dieu. Il dira comment il est pris sous ses ombrationes divines. Comment il est pris à l'ombre de ses différents mystères. Il décrira ce mystère d'amour. Il dira aussi que c'est silencieux. Mais il y a un contenu intellectuel par la foi. Parce que le mystique chrétien dira toujours que la plus haute expérience mystique ne supprime pas la foi. Et la foi a un contenu intellectuel, un contenu dogmatique, un contenu de révélation. Donc il y a un contenu de révélation qui est impliqué dans toute mystique chrétienne, à partir de la foi. Tandis que dans la mystique naturelle, il n'y a plus de contenu intellectuel. Et ça, chez Plotin, c'est très net. Je crois que Plotin est l'exemple le plus précis d'une mystique naturelle. Vous savez bien, on l'a dit, que Plotin était pris en extase quelquefois pendant plusieurs jours. Expliquez ça. Qu'est-ce que c'est exactement ça? C'est ça, si vous étiez tout d'un coup pris en extase. Aujourd'hui, on traiterait ça psychologiquement en disant il est malade. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Du temps de Plotin, on avait l'avantage de ne pas être dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'on avait une extase. Et au contraire, les disciples étaient là en admiration, regardant combien de temps ça dure. Tu vois, combien de temps il n'a pas pris de nourriture, combien de temps il était complètement pris par les autres. Alors, on était en admiration. Aujourd'hui, encore une fois, on appellerait tout de suite un médecin, on prendrait sa tension, on verrait exactement tout de suite, et on le regarderait, puis on dirait hôpital psychiatrique, là, quelque chose qui ne va pas du tout. Il est un peu anormal. Hein. C'est très curieux, hein, c'est très curieux le jugement spontané qu'on a. Alors, que représente cette expérience mystique? Elle se dit comme n'ayant pas de contenu intelligible. Elle se dit comme une présence. Elle se dit comme une perte de soi d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de contenu intelligible. Une perte de soi, c'est ça surtout l'Inde. vers quelque chose en absolu qui vient au-devant de nous et qui nous prend. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Vous voyez, on pourrait mettre analogue, d'une façon parallèle, l'expérience de ceux comme la survie. L'expérience de ceux qui, après une certaine mort apparente, vivent dans une certaine lumière, un certain silence, un silence lumineux, un silence aimant. Aucun contenu intellectuel. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Je crois qu'on peut dire que n'ayant aucun contenu intellectuel, cette expérience est une expérience intérieure de ce qu'est de plus intérieur dans l'âme. Et par là, l'expérience par l'âme d'une présence de la source de tout. L'âme elle-même étant portée par celui qui est la source première de tout. Alors, y a-t-il dans ce contact et cette présence, y a-t-il plus que l'expérience religieuse poussée à l'extrême ? Je ne crois pas. Vous voyez ? C'est l'expérience religieuse poussée à l'extrême, poussée dans une très grande pureté, dans un très grand dépouillement. Mais c'est bien l'état affectif de l'âme qui découvre comme un abîme même. C'est l'âme qui se découvre abîme face à l'abîme. C'est l'âme qui se découvre comme porteuse d'un absolu, de la source d'où elle provient. Et c'est parce qu'elle est proche de cette source qu'il y a un silence. Mais il n'y a pas découverte directe et immédiate de Dieu. Il y a un silence respectueux, infiniment religieux. Il y a un silence, mais il n'y a pas de prise directe sur l'absolu. Donc, il y a une intériorité poussée jusqu'au bout d'intériorité. Et c'est pour ça que je dis c'est comme un abîme. C'est en ce sens-là qu'on dira de temps en temps, et je crois qu'il faut faire grande attention, on dira que cette expérience mystique naturelle a un mode esthétique. Je n'oserais pas le dire, moi. Je dirais elle a un mode religieux. J'aime mieux dire ça. Elle a un mode religieux. Elle a un mode de nos limites et de notre absolu en appel. C'est pour ça que je dis un abîme. En attente. On est en attente d'un envahissement de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est dans l'attitude religieuse, dans l'attitude du silence. Mais ce n'est pas esthétique. Ça peut tourner vers l'esthétisme. Ça, c'est possible. Ça peut tourner vers quelque chose que nous faisons au-dedans de nous-mêmes, et alors on saisit notre moi, notre soi le plus profond. Notre soi le plus profond. Dans l'attitude religieuse, c'est l'effacement de l'homme vis-à-vis de Dieu. C'est l'effacement de l'homme vis-à-vis du Créateur. Donc, dans cette attitude religieuse poussée à l'extrême, poussée jusqu'à l'expérience mystique, on ne peut pas dire que c'est l'expérience de soi. C'est l'expérience du creux qui est en nous, de l'attente qui est en nous, de l'abîme qui est en nous. Ça, oui. Il y a quelque chose d'infini en nous, dans une réceptivité radicale. Mais ce n'est pas l'expérience de nous-mêmes, avec une confusion de notre expérience de nous et de Dieu. Non, non. Je crois beaucoup plus que c'est l'expérience d'une pauvreté radicale de celui qui est pure attente de Dieu. De celui qui a tout suspendu pour être uniquement dans cette attente. Et où Heidegger touche quelque chose comme cela. C'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose de mystique chez Heidegger, et d'une mystique naturelle. Heidegger dit que ce qu'il y a de plus grand au point de vue philosophique, c'est d'attendre que Dieu parle. C'est d'attendre que Dieu se manifeste. C'est bien ça l'attitude, je crois, de l'expérience mystique. C'est cette attente Et Heidegger refuse que ce soit une expérience de Dieu. Il accepte que c'est une expérience de nous, de l'être. C'est pour lui, c'est l'être. Mais si je veux comprendre qu'est-ce que c'est que cet être, c'est l'être que je porte en moi au-delà de la détermination qui est en moi. Et donc c'est l'être qui s'ouvre. C'est l'être qui est silence. C'est l'être qui est attente. C'est l'être qui est abîme. C'est l'être qui est dans l'état de pauvreté la plus grande pour être en état de réceptivité à l'égard de celui qui doit venir, de celui qui doit se manifester. Donc, ce n'est pas l'expérience de l'être au sens absolu, c'est l'expérience de nous dans notre nudité, dans notre pauvreté. Vous voyez, je crois que c'est ça l'expérience mystique naturelle. C'est quelque chose qui est au plus intime de nous-mêmes et qui est dans cette attente. Mais voyez, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de jugement d'existence propre à l'égard de Dieu. Et je crois que c'est impossible. S'il y a un jugement nouveau à l'égard de Dieu, alors c'est le croyant. Et il en est conscient. Les mystiques savent que c'est dans la foi, les mystiques chrétiens, savent que c'est dans la foi qu'ils sont unis à Dieu. Ils sont unis à Dieu dans l'amour. Mais ils savent que c'est dans la foi. Ils savent que c'est le jugement d'existence dans la foi. Tandis que dans la mystique naturelle, il n'y a pas de... Ils savent très bien que ce n'est pas la foi. Ils savent que tout le monde peut y arriver par un certain exercice, une certaine méthode. On peut arriver à cela. On est capable de faire ce vide intérieur. On est capable de rejeter tout pour qu'il n'y ait plus qu'attente. Pour qu'il n'y ait plus qu'abîme. Pour qu'il n'y ait plus que silence. Au-delà de toutes les déterminations, et qu'il y ait cette attente de celui qui doit venir, de celui qui doit parler. Alors, il n'y a pas de contenu, vous voyez ? Et je crois que c'est ça qui caractérise cette expérience mystique. Un au-delà de toutes les déterminations, de toutes les catégories. Un au-delà dans lequel on se maintient volontairement. Et dans laquelle il y a une certaine délectation, une certaine joie. Alors, est-elle bonne ou mauvaise ? C'est très différent, c'est très difficile à poser la question. Mais toujours, je constate un certain état de joie d'être comme perdu dans l'attente. Perdu parce que c'est plus nous, c'est plus notre détermination. Si vous enlevez toutes les déterminations, il n'y a plus de frontières. Vous êtes perdu et partout vous êtes. C'est évident qu'il n'y a plus de frontières. Les frontières, ça vient de vos déterminations qui vous limitent à l'égard d'un autre. Et alors à ce moment-là, il n'y a plus de limites à l'égard de l'autre. Et je crois que c'est ça qui fait cette valeur abyssale de l'expérience mystique naturelle, qui fait qu'il n'y a plus de limites. Alors vous êtes dans un état de pure attente. Et de joie, mais dans un état de pure attente, à l'égard de celui qui doit venir. Vous voyez, c'est une espèce de messianisme très curieux, naturel, d'attente de la révélation d'un absolu. En étant sûr que si vous êtes dans cet état-là, il viendra. Je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin. Vous voyez, oui.
On ne peut pas déjoindre l'intelligibilité du fait que tout ce qu'il est, l'homme le reçoit.
Oui.
À tout niveau. Pas seulement, enfin, de Dieu, bien sûr, comme cause première, mais tout ce qu'il est, il le reçoit sur le plan matériel, sur le plan du travail.
Oui, oui, mais faites attention, quand vous dites ça, vous restez en présence de telle ou telle détermination. Vous êtes en présence de ce qu'il y a au-delà de ces déterminations, vous voyez, qui est cette pure attente. Ça m'a beaucoup frappé, cet absolu qui donne du silence. L'intelligible n'est pas le silence, encore la détermination. La détermination n'est pas le silence. Vous voyez, c'est l'au-delà des déterminations qui est le silence. Et il n'y a que de la détermination qui donne la vie. Il y a toujours cette idée d'abîme, cette idée d'infini, cette idée du silence, cette idée de non-détermination, cette idée d'attente. C'est toujours ça. Alors, vous pouvez décliner ça de façon multiple ou diverse, mais quand on regarde quelqu'un comme Heidegger, c'est aussi très significatif. Il est très proche aussi de toute cette partie de cette question-là. Il dit que ce n'est pas l'expérience de Dieu. Il a raison de dire que ce n'est pas l'expérience de Dieu. C'est suffisamment lucide. Ce n'est pas l'expérience de Dieu. C'est l'expérience de notre moi dans ce qu'il a de plus absolu. Et pas de notre moi psychologique, c'est bien évident. C'est notre moi dans son accueil, dans son ouverture. Et quand Aristote dit que le nous, c'est le lieu de toutes les formes, alors c'est l'au-delà de toutes les formes, c'est le lieu de toutes les formes. C'est la réceptivité. C'est la réceptivité radicale qu'il y a en nous. Et ça, nous pouvons en avoir l'expérience. On peut très bien. Donc, normalement, on ne demeure pas dans cette expérience parce qu'on sait que c'est une expérience. N'est-ce pas ? Et qu'on a la foi. Alors, l'autre question qui viendrait, vous voyez, là je prendrai d'une autre manière, je prendrai en le mettant dans la perspective de Bergson. Je dis, l'expérience des mystiques, puisque la grâce ne détruit pas la nature. La grâce en détruit la nature. Alors, est-ce que l'expérience mystique de foi impliquait une expérience naturelle à l'égard de Dieu ? Vous voyez la question ? J'ai pris le côté religieux, poussé jusqu'au bout, et on aboutit à ce point de vue d'un nirvana, mais négatif, pas positif, hein, une attente de l'absolu. Je peux prendre maintenant l'attitude mystique chrétienne, en me servant de ce que dit Bergson sur le mystique, ou tout simplement en connaissant le mystique, j'ai pas besoin de Bergson pour connaître le mystique. Alors on lit Saint-Jean de la Croix, et on regarde ce que Sainte-Thérèse et Saint-Jean de la Croix veulent dire, puisqu'on fait penser Saint-Jean de la Croix et Sainte-Thérèse qui expriment le mieux cela. Ah, c'est évident, personne ne reconnaît. Donc je peux lire Saint-Jean de la Croix et Sainte-Thérèse de l'Enfant, Sainte-Thérèse, la grande Sainte-Thérèse, et Thérèse de l'Enfant Jésus aussi. Et tout le mystique, Marie d'Incarnation. D'accord ? Je peux prendre tous les mystiques. Tous les mystiques disent qu'il y a expérience de Dieu dans la foi. Tous. Il y a une expérience de Dieu dans la foi qui a un contact intime avec Dieu, affectif, qui a un contact avec Dieu, ils le disent tous. Alors, je peux me poser la question, est-ce que ce contact dans la foi va-t-il ennoblir mon intelligence humaine d'une manière telle que la nature suit la base? On peut poser la question, c'est même normal de se poser la question. Et même se la poser la question en philosophe, pour savoir si de fait il y a un toucher naturel dans le toucher surnaturel. Voyez la question, hein, parce que c'est intéressant de se poser la question. Parce que c'est intéressant de savoir si du fait même que j'ai une expérience mystique, vraie, authentique, dans la foi chrétienne, mon intelligence va être transformée du dedans par un certain toucher de Dieu. Autrement dit, si vous voulez, d'une autre manière, on pourrait se poser la question, jusqu'où la foi transforme-t-elle la nature ? Jusqu'où la foi ennoblit la nature ? Et je prends la foi parce que je suis dans le domaine de la connaissance, pas la nature. Vous voyez comme c'est délicat ça. Quand je fais un acte de foi, un simple acte de foi, il y a un jugement d'existence nouveau. Je pars exprès de là. Après, je parlerai du point de vue du jugement, l'acte de foi au point de vue mystique. Quand je fais un acte de foi, il y a un jugement d'existence nouveau. Ce jugement d'existence nouveau, à quel niveau est-il ? Est-il au niveau de mon intelligence, de mon nous, ou est-il au niveau de la foi ? Alors, vous voyez ce que je peux répondre tout de suite. Hein ? Quand je fais un acte de foi, mon intelligence est présente dans mon acte de foi. ça c'est sûr. Je ne peux pas faire un acte de foi sans que mon intelligence soit présente. C'est pour ça que si mon intelligence est marxisée, mon acte de foi est particulièrement pénible. Parce que je suis marxisé quant à mon intelligence, c'est-à-dire mon intelligence a un procédé dialectique d'avancement, et la foi est anti-dialectique. Vous voyez ce qui se passe. Alors quand le Saint-Esprit va très fort, ça va, mais quand le Saint-Esprit me laisse tranquille, ça va plus du tout. C'est expliqué. Un converti qui est marxiste, au moment de sa conversion sous l'action de l'Esprit Saint, c'est merveilleux qu'il découvre un nouveau ciel, une nouvelle terre. Mais si l'Esprit Saint le laisse tranquille, le lendemain, où la grâce est plus aussi ainsi bonne, il dit, mais qu'est-ce que je suis ? Il revient marxiste dans son attitude, il dit, oh, c'est un mirage. C'est un mirage, je suis vraisemblable. Parce que l'acte, tout acte de foi implique le voyage de l'intelligence, implique l'exercice de l'intelligence. S'il y a l'exercice de l'intelligence dans l'acte de foi, jusqu'où la foi va-t-elle permettre au jugement d'existence normale de se prolonger dans le jugement d'existence de la foi? Dans la foi, je dis Dieu existe. Dieu existe. Puisqu'il est le Créateur. Le Créateur existe. Alors mon jugement d'existence va-t-il être présent dans ce jugement d'existence? Non, vous n'êtes jamais posé la question. Ça, j'en suis sûr. Mais quand on est des chrétiens un peu lucides. C'est vrai, c'est quand même très intéressant, ça. Quand vous faites un acte de foi, est-ce que votre intelligence, jusqu'où votre intelligence est-elle support de votre foi? Jusqu'où votre intelligence est-elle support de votre foi? Et est-ce que votre intelligence est-elle support de votre foi matériellement, est-elle support de votre foi vitalement, est-elle votre support de votre foi, même encore plus, pour atteindre quelque chose de nouveau. Ça sonne, mon cœur. On reverra ça tout à l'heure. Réfléchissez là-dessus, ça vaut la peine, hein, parce que c'est vous donner une lucidité plus grande, au moins de ce que c'est que vous voyez, une lucidité plus grande, vous avez l'intelligence.